La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'information sur Europe 1. Dans un instant, la semaine politique JDD Match Europe 1 à suivre après le journal de 19h. Vendredi, thématique sur la fin de vie. Emmanuel Hirsch, membre de l'Académie de médecine, nous livre son point de vue. Et puis à 19h30, soyez au rendez-vous, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin est notre grand témoin de l'actualité. Ne sortons pas de l'histoire, dit-il, c'est son dernier livre, pour que l'histoire de France ne s'arrête pas en 2023. Il est 18h sur Europe 1. Pas une, mais deux mentions de censure, de motions de censure après Lyot. C'est le RN qui tente de renverser le gouvernement. Celle qui a le plus de chances d'aboutir tout de même, c'est celle déposée par le groupe indépendant, transpartisane, co-signée par la NUP. Seul regret pour le chef de file de Lyot, Bertrand Pancher, que les LR ne soient pas signataire. Le gouvernement peut-il être renversé pour qu'elle soit adoptée? Cette motion de censure doit recueillir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, soit 287 voix. Il faudrait donc une trentaine de députés LR, encore eux, sur 61. La vote. La colère gronde après le passage en force sur les retraites. Des dizaines de manifestants ont envahi les rails de la gare de Bordeaux cet après-midi. Et ce matin, plusieurs milliers de personnes ont perturbé la circulation sur le périph' parisien. Les poubelles s'accumulent, plus de 10 000 tonnes de déchets n'ont pas été ramassées. L'intersyndicale appelle à des rassemblements de proximité ce week-end et aussi avant une 9e journée d'action jeudi prochain. C'est annoncé. Gérald Darmanin lui a décidé d'envoyer des renforts à Rennes. La CR8, compagnie de CRS spécialisée dans le maintien de l'ordre et dans la lutte contre les violences urbaines. Rennes, où près de 5 000 manifestants selon les syndicats, 2 600 selon la préfecture, ont défilé dans le calme aujourd'hui. L'action Crédit Suisse est à nouveau en nette baisse, moins 8,01% à Zurich. Voilà donc, cette cotation baisse malgré l'aide financière massive de la Banque Centrale Suisse pour donner un ballon d'oxygène à la deuxième banque du pays. Point complet en fin de journal de 19h avec Didier Hamot. Le président turc Recep Tayyip Erdogan demande au Parlement turc de ratifier l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. 28 des 30 membres de l'Alliance ont déjà approuvé la candidature finlandaise. Eux sont déjà dans l'OTAN, la Slovaquie et la Pologne, qui vont livrer des MiG-29 à l'Ukraine, des avions de chasse. Le président polonais Andrzej Duda a assuré que d'autres appareils seront probablement transférés ultérieurement, mais le Kremlin a immédiatement répondu ces avions seront détruits. Le foot avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Deux chocs au programme, Manchester, Bayern Munich et Real Madrid, Chelsea. 28e journée de Ligue 1 en France ce soir. Au programme Lyon-Nantes à 21h. Match à suivre en direct dans Europe 1 Sport.
Europe 1.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement.
C'est un constat d'échec total du gouvernement.
Qu'est-ce que ça donnera si la motion de censure est votée? Eh bien, Madame Borne s'en ira, parce que c'est comme ça, l'esprit de la Constitution, le gouvernement s'en va.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Ouais, semaine politique, et quelle semaine politique! Et quand je dis quelle semaine politique, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Autour de moi, à Europe 1, Florent Buisson, bonsoir, reporter.
Bonsoir.
Politique à Paris Match. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Bonsoir,
Pierre. Bonsoir, bonsoir Jacques. Bonsoir à Pascal Sceau.
Bonsoir.
Directeur
Pierre.
Adjoint de bonsoir la rédaction. Du journal du dimanche. Vous avez entendu ce générique qui a été fait et conçu spécialement. Merci à Benoît Levionnois, notre réalisateur chéri, d'avoir fait ça pour ce vendredi très spécial. Vous connaissez la situation. Je vous propose d'écouter Elisabeth Borne annonçant l'utilisation du 49-3 devant les députés. C'était hier.
Mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui, sur le texte du Parlement, l'incertitude plane à quelques voix près. On ne peut pas prendre le risque de voir 175 heures de débat parlementaire s'effondrer. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Je n'en doute pas. À l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront une ou plusieurs motions de censure. Et c'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot.
Madame
Voilà. Elisabeth Borne sous les huées des députés de l'Assemblée nationale, c'était donc hier, et à cette même tribune, voilà ce que disait la Première ministre sur la valeur travail.
Dans cette Assemblée, une majorité existe qui croit au travail, y compris au travail des seniors. Une majorité existe qui n'a pas peur des réformes, même impopulaires, quand elles sont nécessaires. Une majorité existe qui fera toujours passer la responsabilité avant l'affichage, la posture ou les petits calculs du coup d'après.
Et Elisabeth Borne qui, le soir même, était l'invitée du 20h de TF1.
J'étais pas en colère, vous savez, j'ai été très choquée. Ça traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions. Certains, du reste, l'ont dit clairement, ils veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue.
Bon, première constatation, Pascal Sault, ça change du Sénat quand même, cette ambiance.
Ah bah oui, mais ceci dit, on avait déjà eu une première alerte, si j'ose dire, pendant les débats à l'Assemblée nationale. Donc finalement, c'est une sorte de continuité, de changement dans la continuité. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que là, il y a une focalisation sur un point précis qui est l'utilisation du 49.3 par le gouvernement, par la Première ministre qui engage donc la responsabilité de son gouvernement. Et c'est ça qui suscite la colère. Et on a bien compris que pour les oppositions, mais peut-être aussi pour l'opinion, parce que je ne sais pas si vous avez vu un sondage qui est paru aujourd'hui qui donne 80% de personnes interrogées hostiles à l'usage du 49.3. 20% seulement sont pour.
Ce n'est pas très étonnant.
Ce n'est pas très étonnant, mais c'est intéressant sur ce que ça veut dire, sur la perception du 49.3. Parce que vous avez vu, l'effort qui est conduit par la Première ministre, par d'autres membres du gouvernement, c'est d'expliquer qu'il y aura quand même un vote. C'est pas, on ne prive pas les parlementaires de voter, puisque à travers le dépôt des motions de censure, il y aura un vote des parlementaires pour ou contre le texte. Mais... donc il y aura un vote. Mais ça, c'est totalement inaudible, ce côté-là. L'idée de dire, bon, c'est quelque chose de... finalement, ce n'est pas une atteinte à la démocratie, c'est un article qui existe dans la Constitution, dont le gouvernement peut faire usage, et qui ne prive pas les parlementaires de voter. Mais les gens les gens ne l'entendent pas comme ça. Ils entendent que c'est une manière de forcer la main, de passer en force et de contester, de mépriser la parole de la représentation nationale.
J'entends les 80% qui sont relevés dans ce sondage. Ce qui serait intéressant, c'est de voir quels étaient les sondages au moment où Michel Rocard avait utilisé 28 fois le 49.3 à l'époque. Ce serait intéressant de retrouver les sondages. Et d'ailleurs, Frédéric Dabi, qui souvent nous écoute le vendredi soir, doit entendre. Donc, à mon avis, il doit déjà en train de préparer des fiches. Il sera là le dimanche soir pour le commenter dans ça fait débat la discussion des débatteurs.
Oui, parce
entre
qu'en fait,
18h30
on était dans la même situation,
hein,
celle d'une majorité relative.
Oui, mais est-ce que 80% des Français disaient c'est pas une manière de faire. Jacques Serret, juste pour revenir, parce qu'on a énormément de sonores à vous faire écouter. La réaction d'Olivier Dussopt ce matin, celle de Gérald Darmanin. On écoutera également juste après ce que vous venez d'entendre, les réactions d'Éric Ciotti. Et notamment d'autres députés de droite qui ne sont pas d'accord avec lui. Mais d'abord, focalisons-nous sur ce moment-là très précis. On est en début d'après-midi hier. Oui. Et juste avant, Elisabeth Borne, dans son monospace Renault, arrive dans la cour de l'Élysée. Et là, on se dit, c'est un premier signal.
Oui, en fait, tout s'est joué au dernier moment. C'est-à-dire que j'étais dans le quartier de l'Élysée hier après-midi. On attendait impatiemment la décision. Ce conseil des ministres exceptionnel qui était nécessaire pour déclencher le 49.3.
Il y avait la terre entière à ce conseil des ministres d'ailleurs. Il y avait je ne sais pas combien de ministres, il y avait même des ministres, on se dit bon...
En tout cas, on était dans l'attente, mais ce conseil des ministres qui était nécessaire donc pour le 49.3, il n'a été déclenché à moins d'un quart d'heure, à moins de 15 minutes avant le début de la séance publique, ce qui était totalement lunaire et donc à la fois incompréhensible. C'est-à-dire que pourquoi attendre jusqu'au bout. Finalement, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe, tout simplement? Est-ce qu'ils ont l'assurance ou pas? Et en fait, finalement, ils ont attendu, patienté, consulté, téléphoné. Ça n'a été que ça depuis presque une semaine, ces trois derniers jours.
Quand vous dites « ils », c'est l'exécutif?
C'est l'exécutif. Ce sont les ministres, c'est Elisabeth Borne, c'est Emmanuel Macron. Et finalement, certains dans la Macronie aujourd'hui nous disent, hors micro, cette majorité, on ne l'a jamais eu. C'est-à-dire dimanche soir, dans les relevés des Républicains, visiblement, les dirigeants des Républicains avaient très clairement indiqué à l'exécutif qu'il n'y aurait pas assez de députés LR qui seraient prêts à voter cette mesure. Et donc, pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Toute la question qu'on se pose, est-ce qu'il est finalement, Emmanuel Macron, espérait que ça se décante, éventuellement en mettant la menace d'une dissolution ? Bref, c'est la preuve d'une impréparation ou d'un amateurisme. Franchement, on ne sait que dire par rapport à ce qui s'est passé hier.
Florent Busson pour Paris Match.
Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Et en plus, ça produit un effet et des images qui sont aussi dévastatrices d'une assemblée, donc la présidente de l'Assemblée qui ouvre la séance hier en l'absence du gouvernement. Et elle est obligée de suspendre deux minutes après. Enfin, c'est, je pense aux gens. Alors, évidemment, un jeudi à 15h, il faut aussi relativiser. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient des millions devant leur poste pour regarder cette séance-là. Mais bon, quand bien même, si les gens qui ont regardé ont vu ça, c'est que l'effet est quand même, comme vous le disiez, dévastateur, parce que ça fait amateur. On a l'impression que le président de la République a un petit peu perdu de son mojo, comme on dit. C'est très particulier.
On apprend avec vous qu'Emmanuel Macron avait un mojo.
En tout cas,
il y avait un mojo en mai 2017, quand il y avait le fameux alignement des planètes. On appelait ça comme ça.
Notamment.
Et finalement, ça ne contente personne. C'est-à-dire que les parlementaires de gauche, évidemment, ils ne se contentent pas de ce 49-3. Mais les élus de droite, les citoyens de droite qui pouvaient espérer une réforme assez dure, finalement, qui permet de faire des économies importantes sur une vision sur le long terme, pas seulement se contenter d'une réforme paramétrique, mais plutôt systémique, en supprimant des avantages, par exemple. Et finalement, elle n'est pas là. C'est-à-dire qu'il y a un 49-3, mais sur ce que certains disent, une mesurette presque. Et donc finalement, ça ne contente personne, ni la gauche, ni la droite, d'un point de vue global.
Pascal Sceaux.
Oui, le problème, c'est que je pense qu'il y a eu une vraie difficulté pour le gouvernement, une espèce d'incapacité à bien mettre en avant son projet. On l'a vu, il y a eu tout un tas d'incidents pendant les débats, il y a eu des mensonges ou des inexactitudes qui ont été relevées à juste titre, il y a eu des changements de pied. On a dit d'abord que c'était une réforme juste. Après, on a dit mais c'est une réforme nécessaire.
C'est avant tout une réforme comptable. Il faut trouver de l'argent.
Il faut trouver de l'argent. Mais bon. Pourquoi ne pas l'avoir dit dès le début ? Pourquoi ne pas avoir axé sa communication pour dire en disant
ça a été dit. Hein, c'est du SOP, t'as dit ça quand même depuis le début en disant qu'il fallait trouver
que ça allait être avantageux pour les femmes, que tout le monde, que plein de des millions de Français allaient bénéficier des 1 200 €. Enfin, il y a eu tout un tas de choses qui ont de communication du projet qui l'ont affaibli en réalité et qui ont émis le doute dans l'opinion. Où à un moment, les gens n'y comprenaient plus rien. Ils se disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette réforme ? Qu'est-ce qu'on nous veut ?
Surtout, ça a été redit par Emmanuel Macron dans un tweet hier où, en gros, il sort sa carte de banquier en disant la situation financière du pays ne permet pas de ne pas voter cette réforme.
Alors, je ne crois pas que c'est dans un tweet. C'est en tout cas, c'était le message qu'il a porté. Justement,
pardon, c'est pas sur Twitter.
Non, justement, c'était des mots qui ont été prononcés lors de ce Conseil des ministres extraordinaire pour justifier ce 49-3. C'est de dire le contexte financier, en tout cas, le risque est tellement grand à ce moment-là, quoi, il prend cette décision, que le vote ne passe pas et que sa réforme tombe à l'eau dans l'après-midi même. Mais c'était trop grand.
Mais même si ça a été rapporté, Jacques Serret, ses propos, c'est crédible. Il l'a vraiment dit. Sinon, on ne l'aurait pas rapporté dans les médias.
Mais absolument. Ce qui est un peu Pascal surprenant, c'est que cet argument-là, finalement, qui surgit un peu dans la toute dernière ligne droite, en vue de la ligne d'arrivée, pourquoi il n'est pas venu avant ? L'argument du fait qu'il y a 3 000 milliards d'euros de déficit, l'argument du fait que cette réforme, si elle n'est pas faite, elle risque d'inquiéter les marchés financiers, donc de faire perdre à la France un certain nombre d'avantages qu'elle a gagnés par la politique conduite depuis 2017, tout ça, c'était des arguments qui pouvaient être entendus, notamment par l'électorat de droite. Ils sont arrivés très tardivement, comme ça, comme une espèce de roue de secours à un train qui était déjà très sur le point de dérailler.
Croit-il vraiment à ces arguments ? Enfin, pourquoi, dans ce cas-là, faire fuiter ? Enfin, à un moment donné, on peut aussi s'exprimer. Je crois qu'il avait expliqué, en tout cas, il avait fait fuiter le fait qu'il voulait s'exprimer hier soir. Il ne l'a pas fait.
Il a envoyé Madame Borne.
Sur un sujet aussi important, on a bien compris qu'il ne voulait peut-être pas s'exposer complètement, mais je pense que les Français sont en droit d'attendre une parole présidentielle qui ne soit pas un propos rapporté.
Alors, en attendant, ce n'est pas le président, ce sont ses ministres qui parlent. On a entendu la première ministre qui a donc donné sa réaction hier soir sur TF1. Je vous propose d'écouter Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui dénonce la violence de l'Assemblée. C'était ce matin sur BFM TV.
un 49-3, ça chahute, mais au-delà du 49-3, il faut avoir en tête la manière dont les débats se sont passés, avec énormément de violence. Moi, je n'ai jamais connu un hémicycle où la haine prend autant de pas sur la raison. Il y a eu des invectives hier, toute la journée, toute la séance l'après-midi.
Pourquoi tant de haine, dit Olivier Dussopt, qui rappelle la qualité du texte.
Non, je ne crois pas, parce que ce serait un échec s'il n'y avait pas de texte. Or, il y a un texte. Il y a un texte qui a été examiné, adopté par le Sénat, qui a été examiné et adopté par la commission mixte paritaire, qui a eu une majorité au Sénat, à deux reprises, en première lecture, lorsqu'il a fallu adopter les conclusions. Et effectivement, il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'un certain nombre de membres du groupe des Républicains n'ont pas répondu présent et n'ont pas suivi la position qui avait été arrêtée par leur parti.
Florent Busson pour Paris Match.
On disait tout à l'heure qu'Elisabeth Borne avait été choquée par les huées. Là, c'est Olivier Dussopt qui a du mal avec la haine qui se dégage de l'Assemblée. Il faut aussi rappeler quand même le comportement de certains membres de ce gouvernement. La semaine dernière, on a quand même eu un ministre de la Justice qui faisait des bras d'honneur pleine Assemblée nationale.
Il faisait peut-être aussi référence au ballon de foot avec l'effigie avec son effigie.
Olivier Dussopt a tout à fait droit, évidemment, de se sentir offensé par toutes les attaques qu'il a subies. Simplement, quand on dit qu'il y a de la haine en face, il faut regarder le comportement qu'on a parfois aussi dans ses propres rangs, des bras d'honneur au sein même de l'Assemblée nationale. C'est quand même inédit et pour le moins lamentable.
Jacques Serret pour Europe 1.
Oui, et puis l'autre point, c'est-à-dire ce qui s'est joué cet après-midi, tout s'est fait à la dernière minute. Et finalement, ces députés qui étaient dans l'hémicycle, ils ont été pris à chaud, entre guillemets. Moi, l'image qui me vient, c'est l'image d'un boxeur qui, au dernier moment, refuse de monter sur le ring parce qu'il n'a pas l'assurance de gagner. Évidemment que les supporters, les spectateurs qui sont en tribune, évidemment qu'ils vont se mettre en colère. Ils se sont installés là. Et finalement, le match n'a pas lieu. Et en fait, finalement, c'est ce qui s'est passé hier après-midi à l'Assemblée nationale.
Ouais, l'autre image, c'est quelqu'un qui vous invite à dîner. Il y a 12 personnes à table dans un très beau restaurant. Puis à la fin, il vous annonce qu'il n'a plus. Il a oublié son portefeuille.
Oui,
Pascal Saut pour le JDD.
C'est très juste ce que vient de dire Jacques à l'instant. Et c'est vrai que c'est d'autant plus frappant que, y compris au sein de la majorité, quand même, ce qu'on entendait dans les jours qui ont précédé, tous ceux qui s'exprimaient disaient qu'ils étaient favorables au vote. Personne ne se déclarait favorable à l'usage du 49-3. Au contraire, ils disaient qu'il faut plutôt l'éviter, c'est vraiment... Bon.
Donc, oui, alors en même temps, je vous rappelle, et je l'ai rappelé dans plusieurs émissions, la phrase d'Emmanuel Macron, alors qu'il est en déplacement, il dit « nous utiliserons tous les attributs de la Constitution pour que le vote aille à son terme ».
Et vous avez vu dans le récit...
Dès lors qu'il a dit ça, c'était vendredi dernier. Je ne sais plus où il était, Jacques Serret, vous allez me rafraîchir la mémoire. Et il y a eu ça, un peu en plein milieu de l'après-midi,
Absolument. Emmanuel Macron, c'était lors de la conférence de presse d'Emmanuel Macron avec Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, vendredi dernier.
Donc il était bien à l'Élysée, mais il y avait un contexte international.
Emmanuel Macron a toujours été très clair. Du moins, c'était souvent en sous-entendu. C'était jamais clairement assumé. Mais entre les lignes, on pouvait lire ça. Le problème, c'est que ces derniers jours... Ces ministres, ce n'est pas du tout le message qu'ils ont tenu. Olivier Dussopt...
Donc ils ont menti ?
Menti ou pas ? En tout cas, ce n'était pas clair. C'est-à-dire que le week-end dernier, Olivier Dussopt, dimanche soir, qui sort d'une réunion à Matignon, dit « nous voulons un vote ». On commence la semaine avec ce message. Donc finalement, l'opinion publique n'a pas non plus été préparée à ce cheminement, à un cheminement vers le 49-3.
Et vous avez bien vu dans le récit qui est fait, du Conseil des ministres... Ce qui est dit, c'est que c'est Emmanuel Macron qui finalement accepte la proposition de la Première ministre de recourir au 49-3. C'est pas lui qui dit, bon, dans le récit, je ne parle pas de la réalité des décisions, mais en tout cas dans le récit qui est fait de ce rendez-vous majeur, c'est lui qui accepte la proposition d'Elisabeth Borne de recourir au 49-3. Donc vous voyez toute cette ambiguïté.
Une première pause dans la semaine politique. JDD, Europe 1, Paris Match. On se retrouve dans un instant et on écoutera justement l'opposition à ce 49-3 tout de suite.
La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table Florent Busson de Paris Match, Jacques Serret d'Europe 1 et Pascal Saut du Journal du Dimanche. Avant d'écouter cette motion de censure, maintenant il y en a deux, mais effectivement le sonore qu'on a eu jusqu'à présent, c'est celui du chef de groupe Liot, Bertrand Pancher. Avant d'écouter ça, je voulais quand même vous faire écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était l'invité d'RTL ce matin et qui parlait du travail de la police après cette manifestation qui a dégénéré hier place de la Concorde et alentour. On l'écoute.
Bon, d'abord, je voudrais remercier les policiers et les gendarmes qui, toute la soirée, toute la nuit, alors qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, d'incident grave, pas eu de blessés graves, il n'y a pas eu, malgré ces manifestations spontanées, de personnes évidemment qui sont mortes durant ces manifestations très difficiles. Je rappelle qu'il y a eu hier 258 interpellations à Paris, c'est beaucoup, et 310 si on prend la province, avec des effigies brûlées, avec des préfectures... on va dire très contesté, pour ne pas dire parfois attaqué. Avec des... Il y a eu dans plusieurs grandes villes de province une pression extrêmement forte exercée contre les symboles de l'État et aussi contre des permanences de parlementaires. Près des lieux de pouvoir, hein, une manifestation place de la Concorde à deux pas de l'Élysée, à deux pas de l'Assemblée nationale, avec des manifestants qui voulaient traverser la Seine, ça rappelle des mauvais souvenirs. Le travail du ministre de l'Intérieur, c'est de garantir la liberté de manifestation. Je pense que depuis le début de cette réforme des retraites, on a vu que le ministère de l'Intérieur, que les préfets de la République, que les policiers et les gendarmes ont su organiser, avec les syndicats, que je voudrais ici saluer, 8 grandes manifestations. Moi, je souhaite que s'il y a encore des manifestations, il y en a une qui est annoncée par exemple jeudi, elles soient organisées dans des conditions qui soient conformes à l'état de droit.
Voilà, petit secret de cuisine dans ce studio, quand on écoute des sonores comme ça et que les gens autour de la table, pour certains, les réécoutent ou les découvrent, y a des sourires, comme celui de Florent Buisson. Qu'est-ce qui vous fait marrer ?
Non, c'est pas un sourire, parce que le rappel de Gérald Darmanin, le rappel historique, n'est pas du tout un rappel comique, pour le coup. Je crois qu'il fait allusion au 6 février 34, hein, des manifestants qui traversent la Seine. Pour...
Exactement.
Mais c'est dramatique, et c'est une forme aussi de dramatisation, parce que hier, ça n'est...
Vous trouvez qu'il en fait trop ?
En tout cas, sur cette référence-là, on peut considérer qu'il en fait trop, parce qu'il y a eu des morts, ce fameux 6 février 1934, ce qui n'est pas le cas.
Il a rappelé d'ailleurs, il a dit, il n'y a pas de mort. Et d'ailleurs, quand il dit ça, on a l'impression qu'il dit, bon, il n'y a pas eu de mort, donc c'est pas très grave. Alors qu'en fait, on a quand même eu un pari très très tendu hier soir autour de la Concorde et sur la place de la Concorde.
Et dans d'autres villes aussi, donc on sent qu'il y a évidemment une tension qui était déjà là et qui est très palpable et qui monte de plus en plus. Enfin, moi j'étais dans l'hémicycle hier, j'étais aux abords de l'Assemblée quand on discute avec les militants. Ils étaient déjà très chauds avant d'apprendre le 49-3 et ils disaient, si c'est le 49-3, nous on ira au bout. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on ira au bout. Mais en tout cas, ça démontre que... Alors déjà, ils tiennent très, très au courant des processus législatifs, ce qui est très bien. Et il y a vraiment une forme de suivi et de passion, mais de passion, enfin de colère. Je ne sais pas jusqu'où ça pourra aboutir. Quoi.
Pascal Saut pour le JDD.
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, probablement, cette question de la tension, de la sécurité, de l'ambiance au sein des manifestations va devenir un enjeu qui n'était pas jusqu'alors. Parce que, comme l'a d'ailleurs très honnêtement rappelé Gérald Darmanin, les organisations syndicales et le préfet de police, Laurent Nunez, ont fait un travail assez remarquable. Ils sont restés en contact tout le temps. Donc, dans les 8 premières journées, rappelez-vous, il n'y a pas eu d'incident, ou très 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 peu, très à la marge. Et c'était des manifestations qui se déroulaient dans le calme. Là, aujourd'hui, on voit bien que la situation avec cette question du 49-3, la tension supplémentaire que cette décision a mise... Il peut y avoir un risque de débordement sécuritaire. Il y a quelque chose qui est très intéressant qui s'est passé hier soir, justement à la Concorde. Oui. C'est le retour de certaines figures des Gilets jaunes. Mm-hmm. Il y en a un qui, je crois, c'est Jérôme Rodriguez, oui, qui a fait une espèce de mini-meeting pour rassembler les gens. Et là, on voit bien que cette tentation-là, du durcissement, en dehors des organisations syndicales, des services, etc., elle porte un risque que le ministère de l'Intérieur doit prendre en compte.
Oui, et il le prend en compte parce qu'on le sent un peu inquiet à la fin du sonore.
Vous avez vu ce soir le nombre de compagnies CRS qu'il y a autour de la place de la Concorde, des deux côtés du pont.
Oui, et pas que, également à Rennes, puisqu'il y a eu des événements aujourd'hui à Rennes. Jacques Serret d'Europe 1.
Mais c'est tout le problème du 49-3, finalement. C'est-à-dire que ce 49-3 a empêché, entre guillemets, la représentation nationale de s'exprimer. Et donc finalement, chez ces militants qui manifestent, il y a eu tous ces mouvements sociaux. Mmh. Et ils arrivent aujourd'hui, et finalement, ce blocage, entre guillemets, cet empêchement de vote, fait qu'il y a une frustration terrible chez ces militants. Il y a un sentiment d'impuissance, mais surtout de frustration, qui fait que... qui provoque finalement une colère qui va bien au-delà de ce qu'on avait pu voir ces dernières semaines et qui peut réveiller de vieux souvenirs.
Alors, réponse à ce 49-3, on utilise encore une fois les outils de la Constitution de 58. La réponse, c'est la motion de censure et la première, puisqu'il y en a deux maintenant. La deuxième a été déposée par les députés RN, la première déposée par le groupe Liot, transpartisane, avec également la NUP qui est signataire, et c'est Bertrand Pancher, le chef du groupe Liot, qui l'a annoncé tout à l'heure.
Le groupe Liot, Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, que j'ai l'honneur de présider, va déposer une motion de censure avec 91 signataires de 5 groupes politiques d'opposition. Je regrette que mes collègues de LR ne soient pas signataires, mais j'espère qu'ils seront nombreux à la voter.
Voilà donc pour cette motion de censure qui est rejointe par celle du Rassemblement national. En tout cas, à l'annonce de, avant même que cette annonce soit faite par le groupe Liot et aujourd'hui, un peu plus tard dans la journée, par le RN, c'était hier, Éric Ciotti dit « Nous ne voterons pas la motion de censure ».
Nous ne voulons pas, dans ce contexte, rajouter du chaos au chaos. Et c'est pour cela que nous venons de décider, en réunion de groupe, que nous nous associerons à aucune motion de censure et que nous ne voterions aucune motion de censure.
Alors, les députés LR ne sont pas tous de cet avis. Écoutez Maxime Minot, député LR de l'Oise.
On n'est pas contre la réforme des retraites au sens large du terme. On est contre la copie qui nous a été présentée, contre la méthode qui a été employée. Mais en tout cas, ce qui est du dépôt de motion de censure, d'où qu'elle vienne, pour la première fois depuis que je suis élu au Palais Bourbon, je les regarderai attentivement, je lirai chaque ligne et je pense que je n'aurai aucun scrupule à voter une motion de censure, d'où qu'elle vienne.
Bon, bah on en revient au problème du vote de ce texte sur les retraites. Il vient des Républicains, puisque tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, Bertrand Pancher a regretté que la motion de censure n'était pas signée par l'ensemble des députés LR. On en revient encore aux Républicains.
Je crois que c'est assez terrible pour Éric Ciotti, surtout. C'est terrible, parce que Éric Ciotti, ça fait deux fois. Une première fois, bon, il voulait que ce texte soit voté par le groupe. Bon, il y a eu une dissidence assez forte. Qui a abouti.
Aurélien Pradier.
Qui a abouti, plusieurs députés, qui aboutit donc au recours au 49-3 pour éviter la catastrophe d'un rejet du texte. Et là, quelle crédibilité, c'est un peu la question qu'on se pose, quelle crédibilité on peut accorder à sa déclaration, très ferme dans la forme, mais est-ce que tout le monde va le suivre ?
Surtout
c'est terrible, parce que c'est une image dont on n'a pas tellement l'habitude au sein des Républicains. C'est un parti traditionnellement, en général, bien rangé derrière son chef. Là, on est dans une situation, on se demande quel est l'avenir du groupe des Républicains.
Surtout, Jacques Serret, je parle sous votre contrôle, mais l'image est assez forte, parce que hier, aux quatre colonnes, Ciotti fait cette déclaration. Vous avez pu suivre ça, je crois que c'était Alexis de la Fontaine de votre service qui était là-bas, aux quatre colonnes. Et en fait, il y avait le groupe avec Ciotti et Maxime Minot, à 3 mètres de là, sort l'exact contraire. Rien que cette image-là de ce parti défait est totalement sidérant.
Les LR sont divisés, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a les Républicains du Sénat, il y a les Républicains de l'Assemblée, et au sein de ceux de l'Assemblée, il y a ceux qui ne veulent pas rajouter du chaos au chaos, et ceux qui finalement sont prêts à aller au bout et éventuellement faire tomber le gouvernement.
Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire, Éric Ciotti ? Il a démis Aurélien Pradier de son poste de numéro 2. Bon, heureusement que Maxime Minot n'est pas numéro 3 ou numéro 4, parce qu'il n'y aurait plus personne.
Je pense qu'ils vont attendre que ça se décompte et de voir comment ça va se passer lundi. Après, le risque, et là où je trouve que l'exécutif, en tout cas, dans leur discours, leur discours peut être dangereux pour eux, c'est-à-dire que autant des élus républicains comme Maxime Minot étaient contre la réforme des retraites, autant ils n'étaient pas forcément prêts à faire tomber le gouvernement. C'est deux choses différentes.
C'est ce qu'il dit d'ailleurs.
Voilà. Ouais. Mais là, aujourd'hui, Elisabeth Borne, pour justifier, et Emmanuel Macron aussi, pour justifier le 49-3, c'est de dire, en fait, le vote sur la réforme des retraites, ça va être justement la motion de censure. Et donc là, finalement, ce vote est détourné et finalement, ça donne presque un argument à ces élus républicains pour dire, attendez, si le gouvernement considère que c'est le vote de la réforme des retraites et qu'il ne s'agit pas, entre guillemets, de faire chuter le gouvernement, bah allons-y gaiement. Et finalement, ça donne une bonne raison presque à ces élus républicains, ce discours de l'exécutif.
Florent Buisson pour Paris Match.
Oui, les LR sortent surtout affaiblis, les LR le parti, les LR le groupe, les Républicains à l'Assemblée nationale. La présidence d'Olivier Marleix est plus que compliquée, en tout cas elle peut être un peu contestée. On ne sait pas trop où ils vont. D'un autre côté, les frondeurs jouent leur carte au maximum, très clairement. Hein. C'est Aurélien Pradié a trouvé un espace politique. Il prend la lumière sur cette réforme des retraites et il pousse un peu son avantage. Derrière, on a, je ne sais plus, mes collègues vont peut-être venir à mon secours, mais peut-être une petite dizaine de députés proches de Laurent Wauquiez qui aussi sont opposés à la réforme des retraites. Laurent Wauquiez...
qui sont élus dans sa région, en tout cas.
C'est ça, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Laurent Wauquiez, qui d'ailleurs ne s'est pas beaucoup exprimé, c'est moins qu'on puisse dire, sur la réforme des retraites. Donc voilà,
c'est un secret de polichinelle. Non, on peut le dire. Pourquoi est-ce qu'il ne s'exprime pas, Laurent Wauquiez?
Il y a évidemment 2027 en ligne de mire, mais voilà. En même temps, il n'est pas le seul. Il y a un autre homme qu'on n'entend pas et qui a plutôt tendance à chaque fois à bien partir au bon moment pour ne pas être présent dans les moments où ça chauffe. Un certain Édouard Philippe qui, cette semaine, par hasard, était parti en...
Oui, il s'est quand même exprimé sur cette réforme. Là où Laurent Wauquiez a botté en touche...
Pour aller dans le sens de ce que disait Jacques tout à l'heure, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans cette perspective de la motion de censure et du vote éventuel des Républicains. J'étais un peu surpris par le discours, certains aspects du discours d'Elisabeth Borne hier soir, qui était l'invitée du journal de 20h de TF1, qui insistait un peu avec force sur le fait que finalement, la faute reposait sur les Républicains et sur leur reniement. Elle ne les a pas désignés comme tels, mais tout le monde a compris. Quand elle disait ceux qui reviennent sur leurs engagements, ceux qui vont contre des convictions qu'ils affichent depuis des années, tout le monde a compris qu'il s'agissait des Républicains.
Et c'était le discours porté dans la majorité, pardon. J'ai eu hier au téléphone Fadila Khattabi, qui est la présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée, et elle avait exactement le même discours. C'était des éléments de langage qui avaient certainement été préparés, mais voilà, l'idée c'était de rejeter la faute sur les Républicains.
Est-ce que c'est pas un peu dangereux qui de l'autre côté, alors qu'il y a une motion de censure qui se profile et qui a un texte tout à fait acceptable, c'est celui du groupe Liot, qui peut être voté par des Républicains, pas celui du RN.
En tout cas, si elle passe cette motion de censure, Pascal Sault, je crois que c'est une première dans l'histoire, parce que jusqu'à présent, toutes les motions de censure ont été rejetées.
C'est arrivé en 62, et là, alors là, je pense pas que ce serait la même chose, parce que ça a provoqué, je crois, la dissolution de l'Assemblée et le retour d'une majorité gaulliste beaucoup plus large et la renomination par Charles de Gaulle de Georges Pompidou comme Premier ministre. Donc, je crois qu'on est assez loin. On est assez loin de.
C'est pas exactement le même contexte. Alors justement, hypothèse. Pour ceux qui tiennent les conséquences de ce 49-3, de l'utilisation de cet article de la Constitution pour faire passer au forceps la réforme des retraites, on écoute Marine Le Pen.
C'est un constat d'échec total du gouvernement. Et j'irai même plus loin. C'est un constat d'échec total pour Emmanuel Macron. Car c'est sa réforme. C'est lui qui l'a portée. C'était même la seule qu'il a défendue pendant la campagne présidentielle. Donc c'est son échec personnel. Mais les institutions permettent de censurer un gouvernement, pas un président de la République. Donc, comme nous sommes respectueux des institutions, eh bien, nous ferons en sorte de censurer le gouvernement.
Et puis de l'autre côté de l'hémicycle, même s'il n'est plus député, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon.
Qu'est-ce que ça donnera si la motion de censure est votée? Eh bien, Mme Borne s'en ira, parce que c'est comme ça, l'esprit de la Constitution, le gouvernement s'en va. Et M. Macron pourra nommer un autre gouvernement s'il a l'intention de le faire. C'est lui qui a rajouté la dissolution. Mais ça n'est pas écrit dans le texte de la Constitution.
Eh bien voilà, à une extrême comme à une autre. Bon, sous le soleil, rien de nouveau, mais enfin, en même temps, ils disent... Je finis pas ma phrase.
Ils disent
Pascal Sault.
Non, mais effectivement, ce que rappelle Jean-Luc Mélenchon est exact. Il y a deux hypothèses. Si la motion de censure était votée, donc le gouvernement est renversé. Mais il y a une autre conséquence aussi, c'est que le projet de loi devient nul et non avenu. Ça, c'est très important, parce que ça, c'est aussi un élément, évidemment, de
motivation. Donc on le fout à la poubelle, en fait.
Ouais, on le fout à la poubelle, c'est ça. Mais la dissolution, effectivement, n'est pas automatique. Le président de la République peut parfaitement nommer un nouveau Premier ministre et qui sera chargé de constituer un gouvernement et de demander la confiance au Parlement.
D'ailleurs, c'est écrit nulle part qu'ils doivent nommer, parce que j'ai entendu ça, un Premier ministre des contestataires, c'est-à-dire de l'opposition. Il peut très bien nommer quelqu'un de son camp.
Voilà, bien sûr.
Tout le monde me dit qu'il sera obligé de nommer soit Marine Le Pen, pas du tout.
Non, pas du tout.
On dit ça aux auditeurs qui se font parfois des fausses idées.
Ça, c'est le cas, c'est un autre cas.
C'est beaucoup rapporté, ça.
C'est le cas de la cohabitation, comme on l'a connu en 93, en 86 et en 93 avec Jacques Chirac et Édouard Balladur. Et Mitterrand.
Jacques Seurat, il y a quelque chose qui est assez notable dans la déclaration de Marine Le Pen. Bon, ça lui ressemble en même temps à la patronne du... Enfin, elle n'est plus patronne du FN, mais du RN. Mais en tout cas, à cette députée RN, c'est qu'elle elle dit « Bon, si on ne peut pas destituer M. Macron, puisque les institutions ne le permettent pas, on a l'impression qu'elle a vraiment... c'est pas Mme Borne qu'elle a envie de pousser dehors, c'est le président de la République.
Bah, évidemment, quand elle est sortie de l'hémicycle, la première chose qu'elle a évoquée, c'est 2027. C'est, en gros, moi, présidente, dans 4 ans, je retire cette réforme.
C'est ça.
Donc, elle est déjà, en fait, pour elle, la campagne est permanente, elle est déjà dans cette course à la présidentielle pour 2027. Ce qui était relativement efficace, elle a juste fait cette sortie hier à la sortie de l'hémicycle. Depuis, je ne sais pas si vous avez observé, mais on ne l'a revue nulle part. On ne retient que ça d'elle à ce stade. Donc, ce qui est quand même assez efficace, je trouve.
Il y a un plan média,
d'un point de vue communication.
Qui est verrouillé par vous savez qui. Florent Buisson, pour parler.
Oui, et c'est intéressant qu'elle ait utilisé cet argument en premier, parce que c'est un des reproches qu'on lui faisait, en tout cas qu'on faisait au groupe du Rassemblement National, c'est de ne pas proposer forcément une réforme clé en main, là où les autres avaient travaillé le sujet. Et là, ils ont tous, là encore, ces éléments de langage à développer. Le porte-parole du groupe du Rassemblement National disait exactement la même chose hier.
Mais c'est ce qu'on disait au début de l'émission. Mais Marine Le Pen, et c'est pour ça que je n'ai pas fini ma phrase, parce que je ne veux pas du tout que les auditeurs pensent que j'abonde dans ce qu'elle dit, mais en tout cas, c'est un constat. Elle dit « c'est un échec d'Emmanuel Macron », et c'est ce qu'on disait tous les quatre au début de cette émission. C'est un échec d'Emmanuel Macron.
À partir du moment où il ne voulait pas en arriver là... Il ne voulait pas ça. Donc, alors, en effet, ils vont nous dire aujourd'hui que ce n'est pas un échec, qu'il n'y a pas de crise politique. C'était le discours de Yael Braun-Pivet ce matin devant Dimitri Pavlenko. Mais oui, clairement, à partir du moment où ce n'était pas la volonté, qu'il n'aspirait pas à ça, on ne peut pas contester le fait que ce soit un échec. Après, pour revenir à la menace de dissolution, le plus probable à ce stade, c'est que cette motion de censure ne passe pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer lundi soir? Qu'est-ce qui va se passer mardi? C'est éventuellement, en tout cas, Elisabeth Borne est clairement menacée. Mais est-ce que ça va changer foncièrement les choses? De toute façon, qu'il y ait dissolution ou pas, imagine-t-on aujourd'hui cet hémicycle aller jusqu'en 2027? Clairement, personne ne l'imagine. C'est que s'il n'y a pas de dissolution la semaine prochaine, il y aura dissolution dans 6 mois, dans 1 an, mais personne n'imagine l'Assemblée aller jusqu'à son terme de la mandature. Donc, finalement, c'est que sans cesse repousser la question, donc tout peut laisser à penser que finalement, motion de censure ou pas, dans tous les cas, on y viendra.
Florent Buisson, de Paris Match.
Oui, et puis on voit que la majorité parlementaire est très fébrile. Il suffit juste d'essayer d'appeler des députés Renaissance en ce moment. Ça sonne pas mal dans le vide. Et on le voyait même hier à l'Assemblée, c'était visible à l'œil nu quand on regardait les comportements du gouvernement ou même d'Aurore Berger vers Elisabeth Borne, juste avant de monter à la tribune. Il y avait des gestes qui trahissaient une forme de fébrilité. C'est visible et c'est notable. Et là où je rejoins Jacques, c'est qu'on ne voit pas comment ils peuvent tenir encore 4 ans, pour être précis.
Eh ben, en attendant, puisqu'on parlait des blocages et des grèves, je vous signale que l'autorité de l'aviation civile demande d'annuler lundi 30% des vols à Paris-Orly et 20% à Marseille. Voilà. Et c'est un blocage de plus par rapport à tous ceux qui ont déjà commencé ou qui vont continuer. 18h42, une nouvelle pause dans Europe 1 Soir avec la semaine politique. Je voulais vous signaler aussi que si vous avez l'habitude d'écouter Gaspard Proust commenter l'actualité tous les trois fois par semaine, mardi, mercredi et jeudi à 8h34, eh bien le meilleur de Gaspard Proust est également à retrouver les samedis et les dimanches dans Europe 1 Matin Week-end, également bien sûr sur votre appli Europe 1 et en podcast. 18h43, la semaine politique revient dans un petit instant. A tout de suite.
La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Dernière partie de la semaine politique avec Pascal Saut, le directeur adjoint de la rédaction du JDD, avec Jacques Soret du service politique d'Europe 1 et Florent Buisson, reporter à Paris Match, qui s'occupe notamment beaucoup de la politique. Il y a eu cette semaine cette commission d'enquête parlementaire sur le nucléaire, et c'est pas que cette semaine, disons qu'il y a eu les deux dernières auditions hier sur ce sujet très précis sur le nucléaire, qu'on parle beaucoup de la... Il y a une crise énergétique, comme vous le savez, depuis le début de la guerre en Ukraine, et elle a même commencé un peu avant cette crise énergétique avec la hausse des prix du gaz. Deux dernières auditions, et non des moindres, puisqu'il s'agissait de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Et c'est Nicolas Sarkozy qui a ouvert le bal de cette commission d'enquête parlementaire, et c'était hier matin. On écoute.
Fessenheim, c'est 70% de l'électricité toute l'Alsace. C'est 400 millions de bénéfices pour EDF. Mais vous vous rendez compte, au moment où EDF a eu besoin d'être recapitalisé à hauteur du milliard, on a décidé de fermer une centrale sûre qui rapportait 400 millions d'euros, qui fournissait l'électricité d'une grande région industrielle, entre autres, comme l'Alsace, à 70%, sans aucune, vous m'entendez, aucune raison valable.
Voilà, extrait des 4 heures d'audition de Nicolas Sarkozy. Pascal Saut.
Ben, c'est du Sarkozy, hein, comme d'habitude. Donc, non, ce qui était intéressant, c'est que finalement, cet épisode-là, qui était un petit peu bizarre, parce que dans un climat un peu étrange qu'on a très largement évoqué auparavant, donc les présidents, les anciens présidents étaient entendus alors que l'Assemblée était en train de se débattre dans les méandres du 49-3. Et en fait, ce qui est très intéressant et amusant un peu, c'est qu'on a eu l'impression d'une espèce de remake de la campagne présidentielle de 2012, parce que ce sujet avait déjà été abordé. Et en fait, il y a eu une espèce de bataille où Nicolas Sarkozy a voulu montrer que lui avait été un président beaucoup plus nucléaire que Hollande, et que Hollande, au contraire, même pour des raisons politiciennes, celle de l'accord avec les écologistes, avait sacrifié la filière nucléaire qui joue un rôle primordial dans l'indépendance énergétique de la France. Ce à quoi Hollande a répondu quelque chose qui n'était pas totalement faux, qui était même vrai, et c'est que pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, il n'y a eu aucun projet de nouvelle construction de centrales nucléaires. Donc il y a eu cette bataille, mais qui s'explique en même temps par la situation actuelle, c'est-à-dire qu'en 2022, j'ai relevé le chiffre parce qu'il m'a paru frappant, il y a 18 centrales dans le pays, elles ont produit en 2022 279 TWh. Ben vous savez ce que c'est ? C'est le plus faible niveau depuis 1988. Vous vous rendez compte ? Depuis 1988. Alors, les causes, on les a évoquées tout à l'heure. Il y a notamment, évidemment, la guerre en Ukraine, mais pas seulement. Il y a aussi, surtout, l'état des centrales, la corrosion, ce qui a provoqué la fermeture d'un certain nombre de centrales et donc la perte.
Et donc, c'est pour ça qu'on a acheté plus de gaz.
Et ce qui est grave, c'est que la France a perdu son indépendance énergétique, c'est qu'elle n'est plus autosuffisante. Et depuis 2021, elle doit importer de l'énergie. Et ça, c'est quand même une grosse épine dans le talon de la France.
Jacques Soret, pour Europe 1.
C'est vraiment dommage que cette audition des deux présidents ait eu lieu hier. C'est tellement dommage que
c'était dans le calendrier, on ne pouvait pas le bouger.
C'était dans le calendrier, mais ça aurait mérité en tout cas beaucoup plus d'exposition.
Vous voyez, on en parle au moins sur Europe 1, dans la semaine politique.
Et c'est très bien qu'on
met en avant les sujets importants et donc ces auditions.
En temps normal, entre guillemets, dans une actualité relativement classique, ces auditions auraient été à la une. C'est ce dont tout le monde aurait parlé. Imaginez-vous deux présidents qui sont mis, entre guillemets, face à leur bilan. Et c'est tellement rare que des responsables politiques, entre guillemets, doivent rendre des comptes devant des parlementaires, qu'ils s'expliquent sur ce qu'ils ont fait 10, 15 ans après.
C'est un problème qui touche tout le monde.
Enfin, Florent Buisson.
Et qui nous concerne aujourd'hui. Et qui nous concerne aujourd'hui. Et finalement, c'est dommage, on en parle et tant mieux. Et pour le coup, voilà, Nicolas Sarkozy a pu longuement s'expliquer, François Hollande aussi. Et au final, le bilan de ces auditions, c'est que Nicolas Sarkozy, certes, en tout cas à cette époque, souvenez-vous, on était quand même après Fukushima, on ne peut pas dire que le nucléaire était spécialement populaire dans l'opinion publique. Nicolas Sarkozy, on ne peut pas lui enlever ça avec cette conviction que le nucléaire était nécessaire. Certes, il n'en a pas construit, mais en tout cas, il n'en a fermé aucune.
Et derrière, Fukushima, c'est la fin du mandat quand même.
Surtout, il y a une petite histoire, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, vous avez titillé Elisabeth Borne sur Fessenheim, je crois savoir. Que
absolument, c'était je crois au mois de septembre.
Au mois de septembre dernier, vous lui avez posé la question, c'était elle qui avait fermé Fessenheim.
Qui était directrice du cabinet de Ségolène Royal dans le gouvernement de François Hollande.
Voilà,
et notamment,
donc elle est appliquée.
Et alors, François Hollande, évidemment, s'est expliqué, je ne sais pas si on l'entendra tout à l'heure, mais François Hollande, quand il s'explique, il y a des parfois, alors c'était à chaque fois très très long, on avait du mal à tout saisir, il y avait tendance parfois à noyer le poisson, parce que évidemment...
Mais que font les députés de la commission d'enquête parlementaire? Ils n'osent pas le couper? En disant, bah attendez, c'est bon...
On vient... Il est auditionné, donc qu'il s'explique, qu'il ait du temps, il y a tout, justement, il n'y a pas...
C'est ritualisé, ça se fait, c'est-à-dire qu'il s'exprime d'abord, et ensuite, les parlementaires peuvent lui poser des questions. Mais dans un premier temps, il s'explique, il a le temps de... sans être contredit.
Une audition, pas une audition de police.
Mais ce qui est
Florent Buisson. Florent Buisson.
Non, je disais, c'est une audition, pas une audition de police, c'est-à-dire que le cadre est très, comment dirais-je, respecté.
Mais c'est bien aussi que ce soit posé. La citation que j'ai notée et qui nous paraît incompréhensible aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est cette phrase de François Hollande, déjà qui admet que cet objectif de réduire à 50% la part du nucléaire qu'il avait fixé était un objectif politique. Et il y a aussi cette phrase qui dit « On a fixé cet objectif en espérant que la consommation, je le cite, en espérant que la consommation électrique allait augmenter pour faire baisser le nucléaire. » On parle d'augmenter la consommation d'électricité et faire baisser le nucléaire. Ça nous paraît tellement antinomique. Et c'est du François Hollande dans le texte hier.
C'est bien. J'adore vos commentaires. C'est du Nicolas Sarkozy. Regardez, c'est même du François Hollande. En même temps, j'abonde.
À sa décharge, pardon, c'est compliqué de regarder avec les yeux d'aujourd'hui les décisions qui ont été prises il y a 10 ou 15 ans en matière énergétique.
Évidemment,
il y a la question de la souveraineté quand même qui est là-dedans.
Mais gouverner, c'est prévoir.
Mais ce qu'on cède, en tout cas, pour compléter ce que vous dites, Laurent Buisson, c'est qu'il y avait quand même une partie de la coalition Hollande, c'était les Verts, et il fallait composer avec eux.
Mais même,
ça a été rappelé par Manuel Valls, l'ancien Premier ministre.
Et ce qui a été rappelé par Arnaud Montebourg, qui a été entendu par la commission d'enquête parlementaire, a clairement dit que derrière cela, il y avait un accord politicien. Voilà.
Et c'était exactement le cas. Merci à vous trois, merci d'avoir participé à la semaine politique Europe 1, JDD, Paris Match. Merci à vous, Florent Buisson, Jacques Seret et Pascal Sault. À suivre, après le journal de 19h, vendredi, thématique sur la fin de vie. Le docteur membre de l'Académie de médecine Emmanuel Hirsch sera avec nous. Et puis à 19h30, soyez au rendez-vous, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin sort ce livre « Ne sortons pas de l'histoire » pour que justement l'histoire de France ne s'arrête pas au moment où l'on parle. Restez avec nous dans un instant, le journal de 19h sur